propose une devinette. Elle était encore là la semaine dernière, enfin il y a une semaine, place Bellecour. Et c'était pas possible de pas la voir. Mais si j'en crois les informations sur Internet, elle n'est plus là. De quoi s'agit-il ? Ah, c'est trop fort. C'est la Grande Roue, qui est à présent démontée, semble-t-il. J'ai eu l'occasion de la voir en fait à plusieurs reprises parce que je faisais un stage pendant une semaine juste à côté de la place Bellecour et je la traversais toutes les semaines. Et si vous voulez tout savoir, non, je suis pas monté sur la grande. Il y a quelques années, je crois qu'on était monté avec Annelise et les enfants, il me semble. Mais je crois que pour 10 euros, enfin je suis pas allé voir, mais c'est ce que j'ai vu sur Internet, vous êtes emporté à 60 mètres de haut en quelques secondes. Moins de sensations, j'imagine, qu'au parc Astérix où je ne suis jamais allé. Mais un regard surplombant. La place et ses environs, comme vous ne pouvez pas les voir ordinairement, au ras du sol. Regardez d'en haut, et d'en bas et d'en haut, ben le regard n'est pas le même. Mais j'ai envie de dire, si vous avez raté l'occasion, je crois que enfin, la Grande Roue, je sais pas, revient tous les ans, il me semble, je sais pas. Mais vous pouvez encore monter, c'est pas trop tard, ne pleurez pas, vous pouvez encore monter sur le dôme de la basilique de Fourvière, normalement qui ne doit pas être démonté dans les médias, contrairement à la Grande Roue. Et là, vous êtes à 120 mètres, au niveau de la basilique elle-même, en bas, vous êtes à 120 mètres au-dessus de la place Bellecour, au-dessus de Lyon, et si vous montez sur le dôme, vous êtes encore 50 mètres plus haut. Et comme tous ces lieux en surplomb, que ce soit à Lyon, que ce soit ailleurs, ça peut être en montagne quand on est sur un sommet, si vous avez une vue à 360 degrés, mais vous avez encore un autre regard. Ça vous permet de voir les choses sous un autre angle. Et on reste là à contempler, puis on fait des liens entre des endroits qu'on reconnaît, on dit tiens, ça, c'était comme ça. Voilà, si vous êtes en montagne, vous essayez de repérer la voiture en bas, tout en bas, très loin en bas. D'en bas et d'en haut, le regard n'est pas le même. Du haut du dôme de Fourvière, sauf erreur de ma part, on est monté il y a très longtemps aussi, vous pouvez voir entre autres le théâtre gallo-romain, et c'est là, je crois, qu'au deuxième siècle de notre ère, 165, je crois, à peu près, a été mise à mort une partie de la communauté chrétienne de l'époque, qui n'était pas très nombreuse, il y a eu 35 morts, avec la figure emblématique de Blandine, une esclave chrétienne. Et en pensant à ce que j'allais dire, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils voyaient, eux qui étaient au ras du sol? Qu'est-ce qu'ils ressentaient, ces chrétiens qui étaient livrés aux bêtes? Que se disaient-ils devant les tourments qui leur ont été infligés? Alors on en a des traces dans la lettre des martyrs de Lyon, qui a été reproduite au IVe siècle par quelqu'un qui s'appelle Eusèbe de Césarée. Césarée, ça doit être en Palestine, je crois. Et donc il a une grande bibliothèque, et il a compilé tous les témoignages anciens, et il a fait la première histoire de l'Église développée. C'est assez épais, ça fait 700-800 pages hein, aujourd'hui, en traduction française. Et donc il reproduit, il fait un copier-coller des textes qu'il a sous les yeux. Et avec d'autres, donc Blandine est d'abord torturée, et ses bourreaux, dit le texte, alors c'est un petit peu hagiographique, enfin peut-être qu'on en sens un peu aussi, mais bon, peut-être, ou pas. Ses bourreaux se reconnaissaient vaincus, ne sachant plus quoi lui faire, et ils s'étonnaient qu'elle respirât encore, quand tout son corps était brisé et ouvert. Ils avouaient qu'une seule espèce de ces tortures était suffisante pour arracher la vie à quelqu'un, à plus forte raison des tortures si cruelles et si nombreuses. Cependant, la bienheureuse, comme une courageuse athlète, trouvait une nouvelle jeunesse dans la confession de sa foi. C'était pour elle une reprise, un repos, un apaisement dans tout ce qui lui arrivait que de dire « Je suis chrétienne, et chez nous, il n'y a rien de mauvais. » Elle est ensuite livrée aux bêtes, et je continue la lecture. Blandine, elle, suspendue à un poteau, était exposée pour être la pâture des bêtes qu'on lâchait sur elle. En la regardant suspendue à cette espèce de croix, en l'entendant prier à haute voix, les combattants chrétiens, donc il y en avait d'autres dans l'arène, ceux qui étaient témoins aussi, sentaient croître leur courage. Victorieuse dans plusieurs épreuves, elle encouragea ses frères, elle petite, faible, misérable, mais comme revêtue du Christ, le grand et invincible athlète. Après tout cela, le dernier jour des combats singuliers, on introduisit à nouveau dans l'amphithéâtre Blandine, en même temps que Pontique, un jeune garçon de 15 ans. Chacun des jours précédents, on les avait amenés pour voir les tortures des autres. joli spectacle, encourageant. Excusez mon commentaire. On s'est forcé de les contraindre à jurer par les idoles, mais ils restèrent fermes et ne prêtèrent aucune attention à ces insistances. Après les fouets, après les bêtes, après le grill, on finit par la jeter dans un filet et l'exposer ainsi à un taureau. Bien des fois projetée en l'air par cet animal, elle ne s'apercevait même plus de ce qui lui arrivait, absorbée qu'elle était dans l'espérance et dans l'attente de sa foi, et dans son entretien avec le Christ. On l'égorgea, elle aussi. Et les païens eux-mêmes reconnaissaient que jamais chez eux, une femme n'avait supporté autant de pareils tourments. Absorbée qu'elle était dans l'espérance et dans l'attente de sa foi. Voici, à en croire ce témoignage, ce qu'elle voyait. Ici-bas, au ras des pâquerettes, il n'y avait pas de pâquerettes. D'en bas, elle avait un regard qui est presque un regard donné d'en haut, quelque part, ou un regard vers en haut. Et nous qui sommes en bas, qu'est-ce que nous voyons? Alors je vais reprendre, désolé, c'est parce que je vieillis, je me répète. Je reprends le début de la lettre aux Éphésiens. C'est la troisième fois que je le commente, oui. Je crois que c'est un des passages qui nous dresse le portrait de ce qu'il nous est possible, grâce à elle, de pouvoir contempler, d'imaginer, de toucher du doigt, de la pensée d'en bas, et qui donne un autre relief à notre histoire. Je reprends depuis le début, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, salue ceux qui à Éphèse appartiennent à Dieu et qui croient en Jésus-Christ. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, le Christ. Il nous a comblés des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste, qui toutes sont en Christ. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui, puisqu'il nous a aimés. Il nous a destinés d'avance à être ses enfants, qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse et il l'a répandue sur nous avec surabondance, en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence pour que nous connaissions le secret de son plan. Ce plan, il l'a fixé d'avance dans sa bonté, en Christ, pour conduire les temps vers l'accomplissement. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être réuni sous le gouvernement du Christ. Et c'est aussi en Christ que nous avons été choisis pour lui appartenir, conformément à ce qu'avait fixé celui qui met en œuvre toute chose, selon l'intention qui inspire sa décision. Ainsi, nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire, nous qui, les tout premiers, avons placé notre espérance dans le Messie. Et en Christ, vous aussi. Vous avez entendu le message de vérité, cet évangile qui vous apportait le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau pour lui appartenir. C'est cet Esprit qui constitue la compte de notre héritage en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Ainsi tout aboutit à célébrer sa gloire. Jusqu'ici la lecture. Et certains pourraient dire, mais bon, c'est bien mignon tout ça, mais à quoi ça sert ce texte de la lettre aux Éphésiens? Mais j'ai envie de dire, voilà ce que nous donne ce portrait de la lettre aux Éphésiens, un regard porté d'en haut. Un regard porté d'en haut et donné au lecteur d'en bas que nous sommes. Un regard qui nous ouvre la possibilité, si nous y attachons, à avoir un autre regard sur la vie d'en bas. Le portrait met en perspective l'histoire, le temps, Il nous parle d'un appel qui nous a été adressé en amont et qui nous ouvre une vocation, ici, maintenant et pour plus tard. Certains d'entre nous sommes peut-être noyés dans un certain confort, et je crois que beaucoup d'entre nous, je parle de nous là, de manière plus générale, en Occident c'est bien le cas, un confort tellement présent qui nous paraît normal. On a des chaises pour s'asseoir ce matin, sauf moi pour le moment. Mais voilà, vous êtes assis sur des chaises, vous êtes grand sensible, ça ne va pas forcément de soi. Nous sommes un bon nombre d'entre nous sommes en bonne santé, c'est normal, entre guillemets. Nous sommes venus en voiture ce matin, sauf moi. Heureusement. Et c'est normal, entre guillemets aussi. Nous avons de quoi manger, pour peut-être la plupart d'entre nous, pas tous. Trop peut-être même. Nous ne manquons pas, le frigo est plein. Le congélateur est plein. Le garde-manger est plein. Le compte en banque, je ne vais pas dire qu'il est plein, parce que je ne sais pas quand est-ce qu'un compte en banque est plein. À quel moment est-ce qu'on peut dire que le compte en banque est plein? Je ne sais pas. En tout cas, le compte en banque n'est pas proche de zéro pour un certain nombre d'entre nous. On n'a pas trop de gros problèmes. Et peut-être pour beaucoup de nos contemporains, je ne sais rien, le plus gros problème, c'est de décider ce que nous consommerons demain, ou cet après-midi, ou ce soir, qu'est-ce qu'on va consommer au cinéma ce soir, à la télévision, qu'est-ce que ça va être notre soirée. Quelle est la prochaine sensation forte que nous pourrons avoir? Les enfants, bon, ça va à peu près. Le boulot, ben, c'est le boulot, hein, c'est pas le paradis, c'est pas non plus l'enfer. Et nous sommes plongés dans l'immédiat, et même si en même temps, ben, c'est l'apparition du premier cheveu gris, du deuxième, et puis, ou blanc, hein, et puis, voilà, nous changeons de couleur, ou bien nous perdons des cheveux, toute ressemblance avec des personnages. De vieux magasins autour de nous, enfin de nouveaux magasins en remplace d'autres plus anciens. Le centre-ville de Villefontaine se change d'aspect, de la Verpillière peut-être aussi. Les arbres sont coupés. D'autres d'autres personnes sont traversées peut-être par l'âpreté de leur existence, mobilisés qu'ils sont eux par les besoins immédiats, parce que pour eux, ni le garde-manger, ni le compte en banque est plein. Manquant de tout le confort moderne, notre appartement peut être froid. Peut-être qu'on n'a pas énormément à manger, ou bien on pourrait avoir aussi de quoi se faire du souci pour nos proches, pour nos petits. Ces petits-enfants qui, dit-on, occasionnent de petits problèmes et qui, en grandissant, font naître de plus grands, dit-on. Non, il y a des petits-enfants qui vont très très mal aussi, bien plus que des grands-enfants. Certains sont impactés aussi à répétition, peut-être à n'en plus pouvoir. Et quand nous croyons à Dieu, il nous arrive ou il nous arrivera peut-être de crier. De crier à lui comme l'ont fait d'autres croyants avant nous. Jusque à quand? Jusque à quand, Seigneur? Jusque à quand détourneras-tu ton regard de moi? C'est touchant que Dieu entende ça. Jusque à quand est-ce que je vais trimer comme ça? Bien, jusque à quand est-ce que je verrai la violence appliquée à mes frères et sœurs dans le monde? Jusque, on ne serait pas les premiers à le dire, les martyrs de l'Apocalypse le crient aussi. Jusque à quand tarderas-tu à juger les habitants de la terre et à leur demander compte de notre mort? Jusque à quand? Et de fait, je crois que l'opulence, comme la misère, comme les postures intermédiaires, entre l'opulence et la misère, il y a un espace, peuvent devenir ternes et lassantes. Le rythme récurrent, le rythme ordinaire du quotidien, est-ce qu'il y a davantage? Est-ce qu'il y a quelque chose au-dessus? Quelque chose qui peut donner sens à tous ces pans de vie qui sont les nôtres et qui se succèdent dans leur banalité? Et qui que nous soyons, je crois que nous cherchons tous à faire du lien et à relier les points de notre vie. Et je crois que ça se voit quand nous nous racontons. Un exemple, je suis à l'écoute d'une personne qui pourrait être chacun d'entre nous, qui me raconte un épisode ordinaire qui vient de se produire. Peut-être une journée de travail à Lyon, si elle travaille à Lyon ou ailleurs, mais on va dire que c'est à Lyon. où il y a une tension avec un collègue de travail, enfin c'est pas n'importe quel collègue de travail, c'est le N plus 1, c'est-à-dire celui qui est au-dessus, c'est le chef, quoi, à propos d'un dossier qu'elle a égaré, et la personne n'a pas compris pourquoi, ou bien pourquoi ça lui est tombé dessus à elle, pourquoi elle est estimée responsable, prise à partie, et puis l'échange s'est mal passé, le dossier, il reste perdu, et elle est inquiète, ou cette personne, ou en colère. Alors, voilà. Et puis en fin de journée, elle est un peu exténuée, elle est perturbée, et quand elle a le désir d'une seule chose, c'est rentrer à la maison, rentrer, maintenant je rentre, je ferme, je me replie sur moi-même, je mets la télé peut-être, je m'affale, je me laisse aller, et en arrivant sur le quai de la gare, eh bien, c'est la découverte que le train n'est pas là, il n'a pas sifflé 3 fois, il faut encore attendre 1 demi-heure dans le froid pour prendre le suivant, et bien sûr le train suivant, vous avez deviné, comme le précédent n'était pas là, peut-être celui d'avant non plus, mais il est blindé, donc il a fallu voyager debout, de manière inconfortable, et à partir de là, à partir de ces choses qui s'accumulent, des choses toutes bêtes, de la journée, eh bien c'est où il y a eu aussi des moments de joie, mais c'est il y a des frustrations aussi analogues qui ressortent quand la personne se raconte. Et l'épisode de la semaine, cet épisode isolé, ponctuel du jour, vient se tisser avec l'expression d'un souci plus général, le souci pour un parent, à l'égard d'un parent avec qui la relation est devenue difficile, un parent qui a fait à la personne des reproches, lui aussi. Et puis pour la personne, le sentiment de culpabilité, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est moi qui ai perdu, pas le dossier, mais qu'est-ce que j'ai fait dans la relation qui fait qu'on est là aujourd'hui? Ou bien de colère? Pourquoi il fait ça? Et comment faire? Comment faire à présent? Comment, compte tenu de la relation qui est devenue la nôtre, comment est-ce qu'on fait pour se rejoindre? Donc il y a des lignes des choses qui se disent, que nous racontons, et des lignes qui se décident, qui se proposent. Du dossier perdu à la relation qui est tendue, qui est perdue peut-être aussi, se tisse du lien, conscient ou inconscient. Et de proche en proche, peut-être la personne en arrive à quelque chose de plus large, la question du sens. Plus large, cette vie que j'ai menée jusque-là, ça. Tous ces moments que j'ai passés, qu'est-ce que j'en ai fait? Est-ce que je les ai perdus eux aussi? On dit la même chose, autre exemple, ce sont tous ces moments où finalement où on en arrive à tenter d'être philosophe par une formule comme la suivante. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie. Ce qui veut dire que je prends du recul et je dis voilà, la vie c'est ça. Formule qu'on dit d'ailleurs comme avec regret. Comme en espérant que ce n'est pas que ça la vie. Ou bien que, je peux illustrer, comme une personne m'écrivait récemment, j'apprends la patience. Donc il y a quelque chose qui... Il y a un avant, il y a un après, il y a quelque chose qui se dit dans le temps, ou qu'on espère qui se produit dans le temps. Donc d'un petit détail du quotidien, du ras du sol, on ne cesse. Nous sommes pas des machines, mais je vais le dire comme ça. Nous sommes des machines, des êtres qui ne cessent de ne pas en rester là et à faire du lien avec quelque chose de plus grand, avec un récit de vie, et avec le récit de vie de notre monde dans lequel on est. Et donc cette personne, mais c'est vous et moi, je crois. Quand quelqu'un me détrompe en disant, ça ne m'arrive jamais. Et à travers le moment présent, donc à travers ce moment que nous pouvons vivre aussi, comme celui-ci, je veux dire, surgit, se dit, se lit, se joue le récit de, un récit de vie, de notre ensemble de vie, de quelque chose de plus ample. Et nous sommes constamment dans ce va-et-vient entre le particulier qui est le présent et le quelque chose qui tisse mon existence, qui tisse notre existence. Nous sommes en quête de relief, de sens. Et même chrétiens, je crois, il nous arrive d'en avoir soif davantage. On essaie de donner sens à nos souffrances, à nos immobilisations. J'apprends la patience. C'est une façon de dire, voilà, je sais pas. Je crois que peut-être que dans cette circonstance, Dieu veut me faire apprendre la patience. Peut-être. Alors à quoi sert, dit-on parfois, dans une posture là très terre-à-terre, à quoi ça sert d'offrir de la religion, d'offrir la Bible, d'offrir la lettre aux Éphésiens? À quoi ça sert d'offrir ça à ceux qui ont faim? Les gens, ils ont faim. Il faut leur donner à manger. Et le reste, en relief, ça n'a pas d'importance. Je dirais, à certains égards, oui, à certains égards peut-être. Et en même temps, comme le disait quelqu'un, deux personnes qui ont faim, quand elles se retrouvent ensemble pour parler, de quoi est-ce qu'elles parlent ensemble? Je ne sais pas si elles parlent de nourriture, peut-être. J'ai tendance à penser aussi qu'elles peuvent bien parler d'autre chose, de leur histoire et de ce qui fait sens dans leur histoire. Alors, ce texte, j'ai envie de dire, c'est un peu comme la grande roue de Bellecour, comme le dôme de Fourvière, enfin, comme tout ce qui est en surplomb. Il nous donne en bas un regard, à nous qui sommes en bas, un regard d'en haut. Il est là pour crier à celui qui est dans l'ordinaire de son existence, qui est nourri aux rêves distrayants, au pain et aux jeux, qui sont distribués 24 heures sur 24 par les chaînes de télévision, comme à celui qui est confronté à la violence, qui est confronté à la prière en attente de réponse. Il nous dit, il nous crie qu'au-delà du fouet, au-delà du grill, il y a peut-être bien plus que ça. Et je fais écho du coup à la parole de Michel Henry, d'ailleurs je peux vous la relire, ou pas forcément, trop tard, je suis parti, j'y vais. Notre vie est finie, elle est limitée, elle est aussi incapable de se donner à elle-même la vie que de se maintenir en vie par nos propres moyens. Qui livrait lui-même, là, isolé, suspendu dans le vide, là, peut se maintenir en vie par ses propres moyens? Michel Henry est un philosophe chrétien, je crois. Et j'entends dans ce qu'il dit un écho de la parole que Jésus a adressée à ses contemporains. L'être humain ne vivra pas que de pain, seulement. Je rajoute ni d'internet, mais vous rajouterez ce que vous voulez. Mais il a besoin des paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Dans l'arène de Fourvière, sans qu'il soit nécessaire de prendre de la hauteur physique, une simple femme, une jeune fille, je crois, une simple esclave, avait un regard plus élevé que ceux qui se jouaient, qui jouaient avec elle, même pour la torturer, même pour lui faire abjurer. Et voilà, dans le prologue de ce texte, de l'être aux Éphésiens, parce que je crois qu'on a vraiment ça, juste en quelques mots, quelque chose de comparable pour nous. Un panorama pour inscrire notre vie individuelle, un panorama dans lequel nous sommes inscrits, que nous en soyons conscients ou non, si nous sommes croyants, et auquel nous sommes appelés à nous inscrire, si nous sommes en recherche. Un panorama pour nous inscrire, nous, et pour inscrire notre vie collective. Et j'ai envie de dire, ce qui est dit là, c'est le socle même de notre rassemblement en ce moment, c'est ce qui fait notre culte. Qu'est-ce que nous avons fait, finalement, dans ce culte, sinon nous rapporter à ces choses qui sont dites là? Et pour y faire écho, pour les entendre, les réentendre et les approprier. C'est ce qu'on a fait c'est ce que Jean-Guy nous a proposé, sans savoir ce que j'allais forcément dire. C'est ce que nous faisons quand nous écoutons là, en ce moment, quand nous écoutons le texte biblique et qu'on écoute quelqu'un le commenter. C'est ça qui fait notre vie. Je m'étais arrêté assez longtemps pour, à cause des problèmes de doigts au niveau guitare. Et donc, elle est ressortie. Et puis je l'ai ramenée, donc il faut régulièrement l'amener à vérifier le manche, le corde d'acier, les cordes tirent le manche, donc il faut vérifier le manche. Je suis retourné donc récemment dans le magasin de musique où j'ai acheté la guitare il y a quelques années, c'est à Lyon aussi. Et le responsable me dit, il ne fait plus les guitares, c'est fini, il reste encore les pianos. Et il ajoute, c'est ça, il dit, je vais plutôt prendre un arrêt de toute façon, hein, pour essayer d'en profiter un petit peu avant de crever. Et c'était presque une citra. Il y a un mot, c'était bien le mot. C'est là le rôle que nous avons aussi. Est-ce que ça, voilà. Emporté par l'inert, par l'idée ou bien par l'air, hein, tentant d'être dans ce flot-là, de jouer le blague, jouer l'indifférent peut-être, avec une part de nous sombre d'un encre ou d'autre chose. Et à cela, je crois que la parole de Jésus nous renvoie. C'est à cela que nous qu'elle nous entendre, que nous voir, quoi la lettre vite à, que la lettre à reprendre chacun de nous intérieurement, à nous habiter et que ça nous fait. Alors je dis, frère, courage. De victoire, un texte comme ça aussi. En ce Dieu à tous ceux qui croient en lui. en Christ les a choisis, mais destinés à devenir ses enfants. Il nous donne à voir le secret de son plan, donne à voir l'identité de son projet. Et il, enfin, je pense que ce que Jean-Guy faisait, on en a tout ça à faire. Partie de milliers, nous n'aime pas. Tous nous le redit. Il nous dit l'identité de ce projet. Il nous dit grâce au projet. Il nous le rate sa parole. Et il nous appelle à la science, tenir bon. Et notre croyant aussi. Dire quoi qu'il en coûte, tenons ferme, attachons-nous à nous. Et bénis, nous bénir ensemble.
De cure, déjà pour ces enfants qui vont nous accompagner.